Bonjour et bienvenue à l'émission Le bon côté du micro. Richard Sainte-Marie avec vous pour la prochaine heure. Je vous présente aujourd'hui la première de deux émissions consacrées au piano en compagnie de Marcel Lapointe, musicien, accordeur de piano et plus précisément technicien de concert. Toutes les pièces musicales entendues à l'émission ont été tirées du disque Chopin avec Jean Saunier au piano forte Pleyel 1848, piano forte restauré par Marcel Lapointe et Isabelle Gagnon. Je vous rappelle que vous pouvez trouver sur Internet des informations complémentaires à l'émission sur le site ava.qc.ca/radio. Marcel Lapointe, c'est quoi un piano?
Avant de répondre à c'est quoi un piano, peut-être qu'on pourrait presque poser la question d'où vient le piano.
Oui.
Ce serait plus facile pour introduire qu'est-ce que c'est le piano.
Allons-y.
Le piano, à l'origine, c'est un clavecin.
Mm-hmm.
Tout à fait. Celui qui a inventé le piano, Cristofori, il demeurait à Florence, en Italie. C'était celui qui entretenait les pianos pour le duc de Médici. Ben, les pianos, qu'est-ce qu'il y a juste là-dessus?
Il entretenait
les clavecins, les clavicordes, puis tous les autres petits instruments. Le duc avait d'immenses propriétés. Il avait quelques châteaux, puis avec ses enfants qui entretenaient... Il entretenait les clavecins de tout le monde.
Mm-hmm.
Puis lui, pendant 30 ans de sa vie, non seulement il entretenait les clavecins et les clavicordes, mais il les fabriquait pour le prince aussi. Puis des fois, il y avait des commandes, il voulait avoir un clavicorde, il voulait avoir un clavecin à deux claviers, puis avec telle couleur, puis telle option.
Un facteur de clavecin.
Oui, c'était un facteur de clavecin. Puis le prince, comme il était immensément riche, c'était la coutume à l'époque d'avoir son propre, la propre personne qui entretient ses instruments. Puis il y en avait beaucoup, là. Il y en avait plus d'une cinquantaine de recensés, là. Puis juste accorder ça, c'était déjà un monde, là.
Un travail quotidien énorme.
Oui, fait qu'il était employé à la semaine, puis dans ses temps libres, il fabriquait un nouveau clavecin, un nouveau clavicorde pour le prince.
Puis un jour, il a décidé, ou il a inventé un piano forte.
Oui, puis l'idée, ça a été assez long, ça lui a pris 30 ans. Il a eu l'idée de modifier le mécanisme du clavecin.
Mm-hmm.
En fait, c'est comme un tiroir. On tire dessus, puis tout le mécanisme du clavecin sort. Il a eu l'idée de remplacer ce mécanisme-là par un autre mécanisme. Au lieu d'avoir des pièces qui... Comme si on prend une corde de clavecin, puis on prend notre ongle, puis on va
Les cordes sont pincées.
Les cordes sont pincées comme sur une guitare. C'est okay, une guitare classique, une guitare acoustique.
Donc, ils peuvent juste donner ce qu'elles ont.
C'est toujours le même son, la même force. Peu importe si on joue doux ou fort sur une touche,
ça sort pareil.
Le clavecin, c'est la même puissance qui sort.
Okay.
Le clavicorde, c'est un petit peu différent. Puis lui, il a eu l'idée de remplacer ça par un marteau.
Qui frappait.
Qui irait frapper la corde.
Qui était fait en quoi, le marteau?
Les premiers marteaux étaient faits en parchemin. C'est le parchemin, à l'époque, qui servait, c'était la peau d'un animal qui était formée en rond. Puis quand tu prends une peau, puis après ça, tu mets un peu d'humidité dessus, c'est un cuir qui durcit.
Mm-hmm.
Fait que ça lui donnait l'effet qu'il voulait avoir.
Donc, il était en cuir, en parchemin.
Ouais.
Puis maintenant, ils sont en feutre, non?
Maintenant, ils sont en feutre, oui.
Ça, c'est venu plus tard.
Oui.
Donc, en pouvant frapper les cordes, on peut frapper fort ou pas fort. On peut frapper piano ou forte.
Oui. Puis Cristofori, c'était pas le premier qui pensait à essayer de modifier le clavecin. Plusieurs facteurs avaient essayé d'imaginer un mécanisme qui serait frappé, parce que existait déjà à cette époque le clavicimbalum.
Oui,
clavicimbalum, c'est un instrument qui est frappé.
Oui.
C'est des petits marteaux qu'on tient dans nos mains, puis on fait...
Oui, oui.
On joue avec.
Ça existe encore, ça.
C'est
J'ai
existe
vu
encore,
un
oui,
musicien de rue en France qui jouait ça, c'était merveilleux.
Le clavicimbalum est très joué en Hongrie, entre autres, particulièrement.
Oui.
Cet instrument-là était antérieur au clavecin.
Ah, OK.
C'est un très vieil instrument. Puis les facteurs ont toujours, pendant des années, des dizaines d'années, ils ont essayé de fabriquer un clavecin qui ferait comme le clavier de cimbalum, qu'on actionnerait les marteaux au moyen des touches.
Mm-hmm.
Ce serait tellement plus pratique. Là, tout le monde pourrait jouer sans ça. Ça prend quelqu'un qui se dédie au clavier de cimbalum, qui se met à pratiquer, parce que c'est pas évident de toucher les bonnes cordes au bon endroit, au bon moment.
C'est comme un peu la moitié percussion, moitié percussionniste, c'est ça.
Mm.
Mais là, on avait d'un côté un instrument à percussion à cordes, puis on avait de l'autre côté un clavecin à cordes pincées. Il s'agit de mettre ces deux,
associer
tout ça, et on invente le piano forte.
Oui.
Mm.
Cristofori, pendant plus de 30 ans, il a essayé d'y arriver et il y est arrivé. Le premier piano, le premier document qui nous reste, le document le plus ancien qui prouve l'existence du piano, ça date de précisément 1700. Il y a une facture dans les documents de la famille du duc de Médicis qui nous indique qu'en tel mois, en 1700 précisément, Cristofori a fait livrer par ses employés dans une des maisons du prince de Médicis un instrument qui appelait à l'époque. Il était tellement occupé à inventer ce nouvel instrument-là qu'il n'a même pas eu le temps d'y trouver un nom. Il ne l'a pas appelé piano forte tout de suite.
Non.
Il l'a appelé clavicembalo qui facce piano e forte.
Ah, OK.
C'est-à-dire, il a livré au duc de Médicis à telle date, pratiquement à telle heure, un clavecin qui est capable de jouer piano et fort à la fois.
Ah, c'est intéressant. Donc, après ça, le nom est resté.
Ouais, le nom est trop forte. Long. Fait que ça, ils ont appelé juste affectueusement, tout simplement, piano forte.
Mm-hmm.
Puis au cours des siècles qui sont venus après, on a laissé tomber le forte pour appeler ça juste piano. Mm-hmm. C'est curieux parce que de tous les instruments à cordes qui existent, c'est celui qui est capable de jouer le plus fort, c'est bien le piano. Mais on l'appelle piano.
Oui, c'est vrai, hein? Effectivement.
Ah, puis, oui. Cristofori, ce qui était extraordinaire dans son invention, c'est que lui, on peut dire que c'est même l'inventeur du journalisme scientifique, Cristofori.
C'est-à-dire?
Parce qu'à cette époque-là, il n'existait pas Internet, il n'existait pas le téléphone, le télégraphe, toutes ces affaires-là. Là, on parle de 1700, là.
Mm-hmm. Il est mort en 1731,
oui. Oui. On envoyait une lettre par la poste, là, puis avec un peu de chance, disons que lui, il était en Italie, s'il voulait contacter un facteur de piano en Allemagne, avec un peu de chance, il pouvait penser d'avoir la réponse un mois ou deux mois après.
Mmh, mmh.
C'était ouais. La vitesse des communications de l'époque.
Ouais.
Il a contacté un journaliste à cette époque-là. Il a tout à fait dévoilé tous les tenants et aboutissants de son invention. Il a même montré les dessins. Il a montré l'instrument original qu'il a fabriqué. Il a dit à ce type-là, qui était ni plus ni moins un journaliste, il a dit, garde, ça c'est mon invention. Moi, je suis parvenu à tel âge maintenant, le temps que je fasse connaître mon invention au monde. Puis même si je faisais breveter mon invention, c'est à peu près certain que ça va tomber dans l'oubli. Il n'y a personne qui va. Parce qu'à l'époque, curieusement encore, le premier bureau des brevets dans le monde était à Florence, en Italie.
Ah oui.
Ça a débuté dans ce coin-là, tout à fait.
C'est une ville de marchands.
Oui, il y a beaucoup de choses qui sont passées à Florence,
ouais, surtout. Ouais, surtout, oui. Ouais.
Puis il savait que pertinemment que s'il déposait un brevet sur son invention, c'était la mort de son invention à plus ou moins brève échéance. Parce que pendant X années, personne n'aurait le droit de reproduire son invention. Ça veut dire qu'il faudrait attendre pratiquement 50 ans avant que quelqu'un ait le droit de commencer à expérimenter quelque chose qui ressemblerait.
Ah, c'est généreux de sa part.
Mais il s'est dit, bon, moi je voudrais que mon instrument survive à ma mort, qu'est-ce que je pourrais faire?
L'annoncer.
Il l'a annoncé.
Ah, ouais.
Il l'a annoncé, puis il s'est dit, c'est moi qui l'ai annoncé. En annonçant publiquement que c'est lui qui était l'inventeur de ça, autrement dit, il donnait les droits à tout le monde, à quelques facteurs dans le monde que ce soit, de pouvoir d'abord reproduire son invention et ensuite l'améliorer. Il donnait explicitement la permission de l'améliorer.
Est-ce que son invention a été accueillie par les musiciens chaleureusement? Ou
immédiatement, non. C'était tout simplement une curiosité.
Incroyable, oui.
Puis grâce
pourtant, il y avait un avantage.
Oui.
Enfin,
il pouvait. Ses premiers instruments, il existe quelques copies dans le monde de ses instruments, puis il en existe un seul au monde de ses pianos. Il en a fabriqué 26 connus.
Mm-hmm.
Puis des 26 connus, il en existe, si on peut dire, 2,5. 2,5 dans le sens que le demi qui reste, il est incomplet. Il n'y a pas les pattes, il manque quelques pièces de mécanisme, il n'y a plus de cordes. En fait, c'est une boîte qu'on peut deviner que ça a déjà été un piano forte. Puis il y en a celui qui existe, qui est tout à fait complet, mais qui n'est pas du tout en état de jouer, il est à Florence, en Italie, dans un musée. L'autre qui existe, il est au musée métropolitain à New York, on peut le voir, puis même, on peut même l'entendre, il existe des enregistrements sur compact disque qui ont été faits sur ce piano-là. C'est le seul au monde qui est en état de jouer.
Donc, un instrument rare. Est-ce que c'est resté la même invention longtemps? Est-ce qu'il y a eu des développements?
Il y a eu presque immédiatement des développements après son dévoilement. Les facteurs, quelques années, à peine après, là, on parle de une ou deux années après, des facteurs de piano en Allemagne comme Andreas Stein, qui fabriquait des instruments pour Mozart, entre autres. Mais il a commencé à fabriquer des copies. Comme tout facteur de piano à l'époque, puis comme Cristofori avait donné la permission de reproduire son invention, les facteurs se sont précipités. Ils ont commencé tout de suite reproduire son invention pour voir ce que ça donnait sur un clavecin. Mm-hmm. Puis, évidemment, tout le monde trouvait ça intéressant. Tout le monde, également, a essayé d'aller plus loin que Cristofori.
Ouais.
Ils ont essayé d'améliorer l'instrument, faire en sorte qu'il joue un peu plus doux, un peu plus fort encore, avec un plus d'emphase. Puis, les musiciens sont arrivés. Il y a un des pianoforte, une des copies comme ça, qui a été présentée à Bach du temps de son vivant. Mm-hmm. Puis, les premiers que Bach a joué, il n'était pas d'accord. Il a dit, non, moi, je refuse de jouer là-dessus, ça me plaît pas. L'instrument est musicalement pas satisfaisant pour mon besoin à moi. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon pour d'autres. Il comprenait que l'instrument était en train d'évoluer. Bon, c'était la naissance d'un nouvel instrument, mais il refusait de mettre son imprimatur sur cet instrument-là parce qu'il savait qu'à cette époque-là, il était déjà considéré comme un des grands musiciens vivants, là, une des grandes mémoires vivantes du monde.
Ça veut dire que les musiciens d'aujourd'hui qui jouent du Bach sur des magnifiques Steinway ou des Yamaha, ils font, mais Bach ne serait pas d'accord avec ça.
Oui.
Mais il faut dire que le piano actuel.
C'est-à-dire que Bach serait probablement d'accord avec le piano moderne d'aujourd'hui. Mais Bach, il était pas fou, ce type-là. Il était vraiment plus brillant qu'on peut l'imaginer encore. Il savait que l'instrument n'était pas prêt. Fait qu'il a dit au facteur, retourne à...
À ta planche à dessin.
Retourne à ta planche à dessin. Puis effectivement, c'est ce qu'il a fait pendant plusieurs années. Le facteur a continué de faire évoluer l'instrument. Puis à la fin de sa vie, quand Bach était presque mourant, il a joué sur l'instrument, puis il a reconnu, oui, maintenant ça, c'est un instrument qui mérite de vivre, qui mérite qu'on écrive pour lui. Puis d'ailleurs, parmi les premières pièces qui ont été écrites pour le pianoforte, c'est un des fils de Bach qui en a fait. Puis il a écrit uniquement pour le pianoforte, il n'a pas écrit pour d'autres instruments.
Et le piano moderne qu'on connaît aujourd'hui, il date de quelle époque? Fin du 19e?
Le piano tel qu'il existe... Disons comme le Steinway de 9 pieds, qu'on pourrait dire, le Steinway américain de 9 pieds, tel qu'il existe, il date déjà dans son état tout à fait actuel, puis pratiquement totalement inchangé, il date depuis 1880.
Ah ouais. Donc ça c'est nouveau, ça c'est le piano moderne.
Oui.
Est-ce que ça veut dire que Chopin n'a pas joué là-dessus?
Pas du tout.
Chopin a joué sur des pianos fortés.
Ce sont des pianofortes qu'il a joué. Il a joué sur plusieurs types d'instruments, mais entre autres, il y avait deux pianos. Toute cette période où il vivait en France, entre autres, il jouait sur deux pianos en particulier, les pianos Pleyel puis les pianos de la maison Erard également.
Mmh. Tu as les pianos Pleyel, tu en as un ou deux ici.
Oui, j'en ai.
Raconte-moi cette histoire, c'est une histoire intéressante de ces pianos.
Il y a quelques années, j'ai rencontré un restaurateur de pianos qui était déménagé pour différentes raisons. Lui, il demeurait en France à l'origine, puis il avait pignon sur rue à Paris, puis pour une raison de divorce, il a tout mis ses affaires dans un container, plusieurs pianos qui appartenaient, puis il a déménagé ici au Québec. Sa mère vivait ici à Québec, fait qu'il a décidé qu'il déménageait ici. Après quelques années à Québec, il était habitué, il vivait en France, il a vécu un bout de temps à Paris, puis musicalement, il trouvait que ça bougeait énormément, puis il trouvait que la communauté artistique était beaucoup plus impressionnante, puis intéressante, puis intéressée surtout au pianoforte. Ici, à Québec, il ne se passait rien du tout. Après 3 ans, je pense qu'il était complètement démoralisé. Il a décidé qu'il retournait en Europe.
Ça, c'était à quelle époque, ça? Dans quelle année?
Je pense dans les années 1980.
Donc, assez récemment.
1996-97, dans ce coin-là.
Il est retourné, mais ses pianos sont restés ici.
Il trouvait ça lourd de retourner avec un container puis rapporter plusieurs de ses instruments. Puis il a décidé qu'il s'en débarrassait. Puis il y avait, dans le lot de pianos qu'il y avait, il y avait deux Pleyel qui étaient particulièrement très amochés. Fait que ça ne lui tentait pas de les ramener parce qu'ils étaient vraiment... c'était des épaves à toute fin pratique. Mm-hmm. Il fallait qu'ils soient reconstruits totalement.
Alors toi, tu les as...
Il me les a offerts, puis moi, j'ai accepté de les acheter. Un coup de folie que j'ai fait.
Et tu les as remontés tous les deux?
Non. Le deuxième, le plus ancien, qui date de 1827, n'est pas encore restauré. Il y a beaucoup de pièces qu'il faut que je reconstruise de toutes pièces parce que c'est introuvable. Celui de 1827, à l'heure actuelle, c'est probablement un des plus anciens Pleyel connus qui existe encore à l'état de piano.
Pleyel, on sait, c'est le Pleyel, la salle Pleyel à Paris, c'est le fameux Pleyel qui était facteur d'instruments, qui était lui-même compositeur et tout ça.
Il était architecte. Il était compositeur, il était musicien également, il jouait du piano, il jouait très bien du piano, il se débrouillait vraiment bien, assez pour donner des leçons de piano, donner des concerts de piano quelquefois. Il jouait également du violon.
Tu as acheté ces pianos Pleyel, les deux pianos, et tu en as restauré un, le plus récent de 1848.
Il date de 1848, oui. Mm-hmm. Celui-là particulièrement m'intéressait parce que le piano préféré de Chopin, c'était le Pleyel. puis exactement ce modèle-là. Le dernier concert qu'il a donné à Paris, en 1848, à la salle Pleyel, c'était sur un piano tout à fait semblable. Je m'amuse à penser que peut-être que c'est ce piano-là sur lequel Chopin a joué. Il n'y a personne qui peut le dire avec précision, parce que malheureusement, l'usine Pleyel a brûlé de fond en comble, puis tous les documents d'archives ont brûlé, ont disparu. Fait qu'on ne peut pas savoir si... d'après le numéro de série, si Chopin a joué sur ce piano-là.
Donc ici, à l'Ange Gardien, chez toi, tu as ces pianos, il y en a un qui est en fonction, qu'on peut entendre, et qu'on peut entendre parce qu'il y a un disque qui a été fait. Parle-moi de ce disque-là.
Ce disque-là, c'est un vieux rêve, c'est une histoire. Je fais partie, moi Isabelle, on fait partie, puis d'autres techniciens ici à Québec, on fait partie d'une association d'accordeurs de piano international qui s'appelle le Piano Technicians Guild. Ça a débuté aux États-Unis, cette association-là. Puis, il y a plusieurs années, pour fêter le 300e anniversaire de naissance du piano en l'an 2000, pour fêter ça, plusieurs années avant, 5 années avant, l'association avait lancé comme projet de chaque groupe, chaque association, chaque chapitre un peu partout dans le monde, de définir des projets pour fêter le 300e anniversaire de naissance du piano. Puis nous, ici à Québec, Isabelle et moi, notre projet, c'était de remettre en fonction, de refaire naître cet instrument-là, le Pleyel de 1848, d'essayer de retrouver le plus précisément possible, de s'approcher, en fait, le plus près possible du son d'origine du piano que Chopin préférait entre tous les autres pianos. Il préférait le Pleyel à d'autres instruments, au Erard, entre autres. Le Erard, c'était une autre maison à Paris, qui fabriquait, Pleyel était fabriqué à Paris aussi. Puis cette maison-là, Erard fabriquait un piano qui était beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant d'une façon sonore, puis même plus grand que les Pleyel fabriquaient. Sauf que le piano était plus lourd, il était plus dur à contrôler. Chopin préférait le Pleyel parce que c'est un piano, pour lui, qui disait dans ses écrits que le Pleyel était beaucoup plus subtil que le Erard. Puis quand il était particulièrement en forme, il préférait jouer sur un Pleyel. Puis quand il n'était pas en forme, il préférait jouer sur un Erard qui donnait il disait à toute fin de pratique que n'importe qui pouvait jouer sur un Erard. Ça jouait fort, ça donnait un bon résultat. Mais sur Pleyel, c'était pas tout le monde qui avait la science pour pouvoir contrôler puis un Pleyel. Mais par contre, on pouvait obtenir des résultats, des pianissimi incroyables, des jeux de changement de timbre fantastiques sur un Pleyel.
Bien, on va pouvoir entendre ça en écoutant une pièce du disque qui était enregistrée par Jean Saunier. Le disque s'appelle Chopin, tout simplement, Chopin, avec Jean Saunier au piano forte, Pleyel 1848. On va l'entendre.